Fréquence animale.
Fréquence animale.
Fréquence animale.
Fréquence animale, l'émission des secondes élevages de LPR La Casotte.
Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Animale, la seconde émission réalisée par les élèves de La Casotte.
Après la santé, c'est aujourd'hui le thème des animaux qui nous intéresse.
Au sommaire de notre émission, le vautour, la chauve-souris et un animal très particulier, le bétatron.
Nous ferons ensuite un petit tour à la réserve de Sigean et au marché de l'Essac, puis nous baladerons notre micro à la SPA de Millau.
Mais on commence tout de suite par un sujet qui fait polémique sur notre territoire, le loup.
Futur éleveur dans le sud d'Aveyron, ce sujet nous touche particulièrement. Retour sur la situation générale du loup en France avec Rodolphe Gaziello, président de l'association Le Clan du Loup.
L'association Le Clan du Loup, une association qui a été fondée en début 1999, et qui est une association uniquement consacrée à la défense et à la protection du loup en France, qui fait notre originalité puisqu'on est la seule association française dans ce cas-là.
En quelle année ont lieu les premières réintroductions du loup ?
Alors déjà, le loup n'a pas été réintroduit en France. Il est revenu naturellement d'Italie et son retour naturel a été officialisé en fin 1992 et il est revenu dans le secteur sud du parc du Mercantour, au-dessus de, dans les Alpes-Maritimes, au-dessus de Menton. Les chiffres officiels parlent de 360-370 loups. Dans la réalité, il y en a entre 150 et 200, sachant que c'est une espèce qui est sauvage, libre, qui n'est pas équipée de collier GPS, donc on ne peut pas avoir un comptage précis du nombre de loups. C'est pour ça que, au niveau de notre association, on préfère donner une fourchette, donc entre 150 à 200 loups en France. Le loup qu'on a en France est de la sous-espèce Italicus. Donc le loup, c'est Canis lupus lupus en Europe, le loup commun. Et comme le loup qui est en France vient d'Italie, la sous-espèce italienne est Italicus. Donc le loup que nous avons en France est Canis lupus italicus. L'hybridation à l'état naturel en France n'existe que de façon infinitésimale. Il n'y a quasiment pas d'hybridation. En revanche, il y a des particuliers qui détiennent des loups hybrides qui viennent, alors eux, pas du tout d'Italie ni même d'Europe, qui viennent très souvent d'Amérique du Nord. Mais là, on est dans le cadre d'un trafic animalier. À l'état sauvage, en France, il n'y a quasiment pas de loups hybrides. En tout cas, n'a pas été démontré. Si vous voulez, c'est très difficile de faire une étude sur l'hybridation puisque le chien, tous les chiens descendent du loup. Soit il n'y a pas, soit ça reste à la marge. Le nombre de loups a augmenté depuis le retour naturel, c'est-à-dire que au début, ils étaient un ou deux en novembre 92. Fin 2017, je vous ai dit entre 150 et 200, donc il y a une augmentation. Mais cette augmentation n'est pas qu'elle devait être, c'est-à-dire qu'elle est très inférieure au nombre de loups qu'il devrait y avoir en France. On peut même parler de stagnation depuis les derniers plans loups qui ont marqué un pas important sur ce qui devrait être une augmentation naturelle de la population de loups en France. Donc oui, par rapport à 1992, on est passé de 0 à 150-200, mais ce nombre est très très inférieur à ce qu'il devrait être.
Pensez-vous qu'il est dangereux pour l'homme ?
C'est très bien d'aborder cette question. Il n'y a aucune attaque de loup sur l'homme, enfin sur l'humain. Quand je parle d'attaque de loup sur l'humain, je parle de loups sains, c'est-à-dire qui ne sont pas porteurs de la rage. En Europe, il n'y a pas de loup porteur de la rage. Il y a eu quelques attaques au Proche-Orient de loups porteurs de la rage sur des humains. En Europe, il n'y a jamais eu d'attaque de loups sur l'humain. Quand ils sont à la recherche d'un territoire, ils sont nomades. C'est pour ça que donc Canis lupus italicus, le loup que nous avons en France, est parti du côté des Abruzzes, on va dire, en Italie, et est arrivé jusque dans les Pyrénées. Une fois qu'un couple ou un loup a trouvé un territoire, enfin plutôt un couple d'ailleurs, a trouvé un territoire qui lui convient, il fonde une meute. Les meutes en France sont toutes petites, hein. C'est entre 4 et 7 loups, et il reste dans ce territoire, qui est un territoire plutôt vaste, il n'y a pas de dimension particulière, et là, il gère son territoire en fonction des proies qu'il a. Comme tous les grands prédateurs, tous ses sens sont développés. Le loup a besoin de tous ses sens. Il a un très bon odorat, très largement supérieur au chien, qui a lui-même un odorat très largement supérieur à l'humain, une ouïe qui est quasiment parfaite, une vue qui est acceptable pour un canidé. Son odorat et son ouïe. Son odorat peut-être en premier, si on doit mettre une échelle de valeur au niveau du développement des sens.
Quel est l'intérêt d'avoir des loups dans un écosystème ?
Un écosystème, il ne faut pas le raisonner comme une entreprise, il faut le raisonner comme un tout. Ça fait partie d'un tout. Il y a des proies, il y a des prédateurs. Si on rompt l'équilibre, l'écosystème périclite. Là où il n'y a plus de prédateurs, là où il n'y a plus de grands prédateurs, il y a un développement anarchique des proies, ou par exemple des herbivores, prenons le cas d'une des proies du loup qui est l'herbivore, et qui dit développement des herbivores qui, eux, n'ont pas de régulation au niveau de la reproduction, à moyen et long terme, ça donne des zones désertiques. Donc il n'y a pas d'intérêt, si vous voulez, dans le sens rapport, ça ne rapporte rien, mais pas plus qu'il y a d'intérêt à avoir une jolie peinture, une belle sculpture. Ça fait partie d'un tout, c'est un ensemble.
Et d'après vous, quelle serait la solution pour limiter les attaques sur les troupeaux ?
Alors les solutions sont connues depuis la nuit des temps, ce qu'il faut savoir que pendant des siècles, voire des millénaires, ceux qui gardaient les troupeaux, on va prendre le cas de la France, c'était dans 100% des cas des enfants, ce qu'on appelait des jeunes pâtres. Et la France était couverte de loups, il y avait des loups partout en France. La première des protections, c'est la présence permanente de bergers auprès des troupeaux. C'est faire le travail de berger. Un berger doit rester auprès de ses troupeaux. Les autres moyens de protection sont les chiens de protection. Il y en a plusieurs races qu'on retrouve dans les Pyrénées, le fameux patou, mais il y en a aussi des bergers des Abruzzes. Enfin, il y a toutes sortes de chiens de garde. Et après, vous avez par exemple le fladrail, qui est une sorte de clôture électrique qui se monte très facilement sur batterie avec des sortes de tissus qui pendent pour effrayer le loup. C'est une combinaison, il n'y a pas un moyen, il y a une combinaison de moyens. Moi, je descends d'une famille de bergers du côté italien où il y avait des loups. J'ai jamais vu mon grand-père un loup ouvrir une porte et rentrer. Ça n'existe pas. Ce sont des contes très bien faits d'ailleurs, mais ça reste des contes. Dans la réalité, un loup est incapable d'ouvrir une porte ou une fenêtre pour entrer dans une bergerie. L'overkilling, la frénésie de tuer. En France, il n'y a pas d'overkilling. Donc je le rappelle, hein, les loups sont de petite taille, ils ont de la taille d'un labrador. La chasse est quelque chose qui coûte à un loup, ça lui coûte de l'énergie, ça lui coûte un risque d'être blessé. Quand il attaque, prenons l'exemple d'un chevreuil, il va se concentrer sur une proie. Les meutes sont toutes petites, ils se concentrent sur une proie, ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture. Les cas d'overkilling existent dans des loups qui sont de grande taille, hein, on parle plutôt des loups de type sibérien, canadien, nord-américain, pour faire simple, où il peut y avoir des cas d'overkilling. En France et en Europe, enfin même en Europe, hein, prenons le cas de l'Europe, dépassons les frontières françaises, il n'y a pas de cas d'overkilling. Ou ça reste exceptionnel, on ne peut jamais dire c'est du 100%. Mais ça reste exceptionnel, les cas d'overkilling.
Au tour maintenant de Jean-Paul Scocard, agriculteur près de la cavalerie.
Est-ce que les loups sont dangereux pour l'homme ?
Ça dépend, il y a des gens qui disent non. Moi, éleveur, qui ai vu un loup à 30 mètres, si demain je tombe sur une louve avec des petits, je pense qu'elle peut être dangereuse. Oui, il y a pas de... Et quand on regarde l'histoire, il y a des très bons textes. Je vous conseille, si vous êtes éleveur, enfin vous futur éleveur, de les lire. Il y a eu le texte « Chercher des livres » là-dessus. C'est pas que des contes, parce qu'on a tendance à dire que c'est les contes qui les loups attaquent les petits-enfants, les vieilles grand-mères, etc. Ça, c'est le Chaperon Rouge. C'est vrai qu'il y a eu des contes là-dessus. Mais le ciel, en 1900 et quelques 1800-1900, il y a eu plein de gens. Il y avait aussi la misère en France. Mais il y a eu plein de gens qui ont été attaqués par des loups. Et on n'est jamais à l'abri de ça. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'attaque récemment. Après, il faut savoir que dans les pays du tiers-monde, il y a encore... Alors, les médias, on ne le sait pas. Mais il y a eu des attaques en Inde. Il y a eu des attaques dans des pays pauvres... sur des gens peut-être faibles, mais bon, il y a eu des attaques, oui.
Quel est l'intérêt d'avoir des loups en France ?
Les gens qui les ont, qui ont défendu, enfin, qui, les associations que vous avez peut-être rencontrées là, qui promotionnent le loup, c'est par rapport à la biodiversité, c'est-à-dire que comme c'est une espèce qui avait disparu, c'est pour... bah, ça fait partie, voilà. Moi, éleveur, moi, citoyen, je dis qu'il y aura plus de dégâts collatéraux qui sont inadmissibles... plus important que les loups lui-même, quoi. Donc, pour moi, c'est... Je vois pas d'avantage que le loup revienne dans nos campagnes, quoi.
Comme vous, un éleveur qui a été attaqué, vous avez été remboursé pour la perte ?
Alors, il faut savoir qu'au départ, dans l'Aveyron, comme dans les autres départements, au début, l'administration ne veut pas reconnaître qu'il y a des loups. Ça se passe toujours comme ça dans tous les départements où le loup arrive. Et donc, au départ, ben, on n'est pas remboursé, parce qu'on nous dit que c'est des chiens errants. Alors, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de chiens sauvages, il n'y a pas de chiens errants non plus, c'est chien divagant, le terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui perd son chien, bon, mais le chien sauvage n'existe pas, ce qui n'est pas le cas dans les pays de l'Est, par exemple, de l'Europe de l'Est, en Roumanie, tu as des chiens sauvages. En Italie aussi, d'ailleurs. Mais en France, il n'y en a pas. Donc, effectivement, ben, au départ, on nous dit que c'est la... que c'est des chiens, les dégâts sont faits par des chiens, ça peut arriver, hein. Moi j'ai eu sur mon troupeau une fois une grosse attaque, mais les chiens le lendemain, 90% des attaques de chiens sont dans les 48 heures attrapées, quoi. Il n'y a que 10% où on n'arrive pas à savoir. Donc par rapport à ta question sur le remboursement, quand c'est reconnu loup, effectivement il y a des indemnités qui tombent, ça coûte très cher à l'État, aux contribuables européens et français d'ailleurs. Mais ça paye pas tous les dégâts, quoi. Il y a plein de temps, tu passes plein de temps quand tu as une attaque. Il faut savoir que tu passes en gros une demi-journée par rapport à une attaque sur un troupeau avec l'administration, la déclaration, les gendarmes, les gardes de l'ONSOSF, enfin tous les papiers à faire, etc. Les clôtures qui sont des fois par terre. Donc ça te rembourse pas tout, non. Et puis le côté où j'insisterai, c'est tout le côté psychologique. T'es aussi... Tu en prends plein la tête, quoi. C'est très lourd au niveau moral, quoi. Et ça, c'est pas monnayable. Alors en 2000, de tête comme ça, ça a commencé en 2014 sur ma ferme, chez mes voisins aussi, sur le petit hameau où j'habite. Donc ça n'a pas été reconnu loup. Les premières attaques ont été reconnues chez moi, c'est automne 2015. 2016, ça a continué. Et 2017, là, ça a explosé. C'est-à-dire que j'ai eu 10 attaques en un an, une trentaine de brebis et d'agneaux morts, quoi. Donc ça commence à chiffrer, là. Ouais. En gros, j'ai 300 brebis, je ne me suis pas appris. Ouais. J'ai 300 mères, donc ça faisait presque 10% de mon troupeau, quoi. La solution, une des meilleures solutions, parce qu'il y a le plan loup propose des clôtures, des patous, etc. Mais depuis 20 ans, 25 ans, c'est inefficace ou presque inefficace dans les Alpes déjà. Donc dans des départements comme l'Aveyron, où on n'a pas la même pratique d'élevage, etc., où il n'y a pas des estives et tout ça, les patous, à mon avis, feraient plus de dégâts par rapport aux promeneurs, par rapport aux chasseurs, etc. Il y aurait plus de dégâts collatéraux. Donc l'efficacité, ça serait le tir, à condition que dès que nous, ce qu'on demande en tant qu'éleveur, c'est que dès qu'il y a une attaque, des gens, des professionnels, c'est-à-dire que... des professionnels, des gens qui savent tirer, qui sont payés pour ça, nous tuent les loups qui attaquent les troupeaux. C'est ce qu'on demande actuellement. C'est en négociation actuellement avec le gouvernement. C'est pas gagné. Actuellement, là, il y a le quota pour l'année 2018, elle sera de 40 loups. Il faut savoir que la plupart des loups qui sont tués actuellement sur ce nombre de quotas sont faits dans les Alpes où là, il y a des grosses attaques, quoi. Alors, moi, je suis en clôture électrique. Donc, effectivement, il y a des clôtures électriques qui sont par terre. Les plus gros dégâts, quand même, c'est sur les bêtes blessées que tu es obligé d'euthanasier. Et puis, sur les mortes, quoi. Ça, c'est sur les troupeaux. Après, les dégâts, oui, il y a les clôtures, effectivement. Le temps que tu passes aussi, comme je suis sur un cause, notamment en été, les brebis sont sur du parcours, elles ne sont pas sur des champs. Donc, j'ai des parcs de 30 hectares. Donc, c'est chercher les brebis disparues et tout ça. Et tu passes beaucoup de temps. Ouais, ça, c'est les dégâts, ouais, qui sont importants, ouais. Je pense qu'il faut beaucoup communiquer, c'est-à-dire qu'il y a un décalage avec le rural et les gens des villes. Donc les gens des villes, si on faisait un sondage, il y a eu des sondages de fait, ils sont à 80% pour les loups en gros. Mais c'est souvent par manque d'informations. Donc c'est à vous les jeunes, c'est à vous hein, qui allez porter, si vous êtes éleveur plus tard, de communiquer là-dessus. Et ça c'est vachement important. Pas spécialement dire oui, on est contre les loups. Il faut réexpliquer, à mon avis, le problème du loup, comme d'autres problèmes d'ailleurs agricoles ou d'autres sujets d'ailleurs de citoyens, c'est d'expliquer comment on travaille, etc. C'est vachement important. Et à partir du moment où tu expliques, eh bien, tu arrives à faire tourner les gens des villes et qui s'aperçoivent que, bah oui, effectivement, tu peux être opposé au loup, quoi. Si tu t'opposes directement, frontalement, ça, tu fais plouf, quoi. Si tu expliques comment tu travailles, parce que les gens ne savent pas comment on travaille finalement. Il y a un décalage actuel qui est très très important. Vous habitez, j'ai compris que vous habitez dans des villages, donc il n'y a pas de décalage. Mais avec les gens des grandes villes de Lyon, Marseille, Paris, Bordeaux, c'est vrai qu'il y a un décalage énorme. Et c'est des gens qui ont envie de comprendre. Mais souvent, sur l'histoire du loup, ils défendent les loups, quoi. Parce qu'ils n'ont pas toutes les informations, quoi.
Arnaud, Antonin, Simon, Enzo et Richard, fils d'agriculteurs, ils se sentent concernés par ce sujet du vautour. Car les vautours se nourrissent de brebis mortes, ce qui peut être utile pour l'éleveur. Mais il devient un problème en cas d'attaque des troupeaux. Pour mieux connaître cet animal, ils ont contacté la LPO.
Emmanuel Voisin, je suis l'animatrice réseau à la LPO Grand Cos. La LPO Grand Cos, c'est une antenne technique de la LPO France. Et nous, historiquement, en fait, on est issus de la fusion du FIR, qui était le fonds d'intervention pour les rapaces, avec la LPO France. Du coup, nos missions, elles sont consacrées au programme de conservation des vautours. Nos missions, ça va être la veille des populations de vautours présentes sur le territoire depuis la réintroduction et la mise en œuvre de programmes de conservation, notamment européens. Pourquoi les vautours sont protégés? Ils sont protégés parce que ils sont inscrits sur la liste rouge de l'UICN, sur un niveau donc que ce soit mondial, européen ou français. Et les quatre espèces de vautours qui sont présentes sur le territoire des Grands Causses sont inscrites sur cette liste, avec des degrés de protection différents. Donc on a quand même des enjeux de conservation qui sont importants. Donc voilà, c'est des espèces qui sont protégées et a fortiori du fait de leur disparition totale sur les Grands Causses, sur la première partie du XXe siècle, qui a engendré des programmes de conservation, enfin de réintroduction, pardon, des vautours à partir de 1968 pour le fauve, en 92 pour le vautour moine, depuis 2012 pour le gypaète barbu. Et on a eu un retour spontané en 82 du vautour parc noctaire. Du fait de leur régime alimentaire, les vautours, c'est des oiseaux, donc des rapaces qui sont nécrophages, qui vont du coup s'alimenter uniquement de bêtes mortes. Pour ça, ça va être des écarisseurs naturels en fait. Ils vont être en bout de chaîne alimentaire. Donc ça va être ce qu'on appelle un cul-de-sac épidémiologique. Ils ont un rôle important vis-à-vis de la biodiversité, notamment dans ce rôle prophylaxique, c'est-à-dire qu'ils préviennent l'apparition ou la propagation de maladies. Donc ils vont nettoyer en fait, c'est des nettoyeurs de la nature. Quand on a réintroduit le vautour fauve, donc en 1968, on a mis en place en parallèle ce qu'on appelle un charnier, donc c'est une placette de dépôt de brebis, avec une collecte de brebis qui a été mise en place en parallèle. Ce charnier historique, donc qui s'appelle Cassagne, enfin qui est à Cassagne, il est toujours actif. Cependant, là, depuis quelques années, on a mis en place, avec les éleveurs qui étaient volontaires, des placettes d'écarissage naturel. Donc là, ça permet en fait une autonomie pour les éleveurs dans la gestion de leur bétail, des cadavres qu'ils ont. Puis aussi pour les vautours, d'avoir une plus grande zone de prospection et qu'ils ne dépendent pas que d'un point d'alimentation. Ça fait en sorte que voilà, ils retrouvent un petit peu leur instinct naturel de prospection sur un plus large territoire.
Johan, on reste avec la LPO qui cette fois nous parle d'un animal beaucoup plus petit, la chauve-souris.
Notre lycée accueille des nichoirs et c'est donc tout naturellement que nous nous sommes questionnés à leur sujet. Gaël Marceny, bénévole à la LPO.
Alors la Ligue pour la protection des oiseaux est une association loi 1901 qui est présente en France. Ensuite, elle se décline au niveau des départements ou des régions. Donc moi, je suis vice-président que de la LPO Aveyron, donc juste sur le territoire de l'Aveyron. Et en fait, les missions de la LPO Aveyron, c'est de préserver la biodiversité et l'environnement à travers différentes missions qui peuvent être des missions d'études, de protection. Alors en France, il y a à peu près 35 espèces de chauves-souris et dans l'Aveyron, on en a 27. Sachant que les plus communes qu'on va avoir ici, ça va être la pipistrelle commune, qui est une chauve-souris qu'on trouve souvent près des bâtiments, des habitations, etc. Après, on va avoir les deux rhinolophes, qui sont le petit et le grand rhinolophe, qui sont les espèces les plus communes dans l'Aveyron. Communes en termes de, pas forcément de nombre, parce qu'il y a des fois des colonies, des chauves-souris qui vivent en colonies qui peuvent présenter des grands nombres. Ce sont les trois espèces les plus communes sur le département de l'Aveyron. Bon, en 2010, en fait, il y a eu une mise en place au sein du ministère de l'Agriculture qui a été déclinée au niveau des lycées agricoles, qui avait un intérêt écologique sur différentes espèces. Donc le lycée de la Cazotte s'est proposé au niveau des chauves-souris. Donc c'était un appel à projet, donc on a répondu, on a été reçu. Dans le cadre de cet appel à projet, il y avait notamment la mise en place de nichoirs de manière à favoriser l'installation des chauves-souris au sein de l'établissement. Donc on en a posé au niveau de l'exploitation, pardon. On en a posé aussi dans les bois, parce qu'il y a des espèces qui sont plus forestières, d'autres qui sont plus inféodées au milieu anthropisé, c'est-à-dire les bâtiments, etc. Donc c'est un appel à projet qui dépendait du ministère de l'Agriculture, qui était lycée pour la biodiversité. La chauve-souris n'est pas aveugle. Après, elle n'a pas une très bonne vue, mais elle n'est pas aveugle. En fait, comme elle a un système de déplacement par écholocation, c'est-à-dire que c'est comme un sonar, mais dans l'air. Donc en fait, comme ce système prend beaucoup de place au niveau du cerveau, c'est au détriment d'autres sens, notamment la vue, quoi. Mais après, une chauve-souris y voit. Pas très bien, c'est pas son sens principal, mais comme elle vit la nuit, le principe c'est d'avoir un système de radar qui lui permet de se déplacer et de trouver les insectes dont elle se nourrit et qu'elle attrape en vol. Pardon.
Et elle vit combien de temps à peu près ?
Bon, c'est variable, hein, ça dépend des espèces. Pour les plus grandes espèces, je dirais que ça peut vivre une petite dizaine d'années, et les plus petites espèces, 5 ans à peu près, la pipistrelle, on va dire dans les 5 ans. Après, il y a beaucoup de... Il y a des risques de prédation, il y a des risques... c'est un animal qui hiberne, donc pendant l'hibernation, c'est toujours une période un peu compliquée. Mmh. Et des fois, des printemps qui sont un peu pluvieux ou froids, quand elle arrive au bout de ses réserves hivernales, elle est obligée de sortir pour chasser. Et des fois, au printemps, les insectes ne sont pas encore là, il suffit qu'ils pleuvent pendant plusieurs semaines, comme l'année dernière, ce qui était, à mon avis, pas une bonne année pour les chauves-souris. Mmh. Alors avant d'avoir des prédateurs, déjà quand elles sont dans les gîtes, dans la journée, par exemple il y a des chauves-souris, comme la noctule par exemple, qui va dormir dans des arbres creux, et peut très bien être dérangée par une fouine, enfin dérangée et prédatée par une fouine ou une martre qui va venir les manger. Après il y a certains faucons qui peuvent les chasser vraiment au moment où les chauves-souris sortent à la tombée de la nuit.
Pourquoi les chauves-souris, ça s'appelle comme ça ?
C'est une excellente question et je n'ai pas la réponse. Si ce n'est qu'après qu'ils ont une petite taille de souris. Après, pourquoi est-ce qu'on les appelle chauves-souris ? Je ne sais pas. Après, on les appelle plutôt chiroptères quand on est un peu dans le milieu.
Et Laura, on m'a parlé il y a quelques jours d'un animal peu commun, le bétatron.
Le quoi ?
Le bétatron. Je crois même qu'ils en ont parlé aux infos.
Aujourd'hui dans notre émission, nous vous parlons d'un animal que personne ne connaît, le bétatron. Nous avons invité Didier et son fils, jeune agriculteur à De Sainte-Afrique, pour nous parler de cet animal qu'il a rencontré il y a un an.
Bonjour, merci à tous les deux d'être venus répondre à nos questions sur cet animal que vous avez rencontré. Pouvez-vous d'abord vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Didier Geste. Je suis un agriculteur qui vit dans les alentours de Sainte-Afrique et je suis venu avec mon fils.
Oui, bonjour, je m'appelle Marcel Geste. J'ai 15 ans et je suis venu avec mon père pour vous parler de notre découverte.
Où l'avez-vous vu pour la première fois ?
On se promenait l'été dernier avec mon fils près d'un champ et il a approché une haie
Et du coup, moi, je l'ai suivi et j'ai vu cet animal. Tout de suite, j'ai pensé à un phasme. Mais en fait, ça ressemblait pas du tout à un phasme. C'était tout petit et ça ressemblait vraiment à une branche. Après, du coup, bah, je l'ai montré à mon fils et on l'a observé toute la journée.
Vous lui avez donné le nom de Bétatron, pourquoi ?
Je lui ai donné ça parce que tout simplement, on le trouve nulle part, cet animal. Et avec mon fils, on a fait des recherches sur Internet. Bah, personne ne l'avait jamais vu, hein. On n'a rien trouvé dessus. Du coup, on l'a appelé comme ça, juste tout simplement, ça veut dire bête à tronc.
Vous pouvez nous le décrire ?
Alors, il ressemble beaucoup au phasme, mais lui, il ne possède pas 6 pattes, mais 8. Il se nourrit de ronces et de baies. Il grossit vite et change 10 fois de peau en un an. On dit donc qu'il mue. Il possède également 2 antennes, 2 yeux, une toute petite bouche pour manger les pucerons. Il se sert de son apparence pour se camoufler en repliant ses 4 pattes de chaque côté de son corps, ce qui le fond dans le décor. J'observe et je l'ai pris en photo.
Pourquoi ne pas le capturer pour le faire voir au monde entier ?
Parce que je l'ai laissé dans ma île, c'est là où il vit, il est bien. Je préfère le savoir en bonne santé et en liberté qu'en cage.
S'il est discret, comment vous faites pour l'observer ?
On essaye d'aller le voir 2 à 3 fois par jour. Et souvent, on le trouve souvent. On le trouve tout le temps presque. Du coup, ça va. Et après, quand on l'a trouvé, on l'observe et on prend des photos.
Est-ce qu'il est dangereux pour l'homme ?
Non, pas du tout. Parce que moi, je l'ai déjà pris dans les mains et il est inoffensif, quoi. Il est comme le phasme.
Marcel, tu sais s'il peut se reproduire avec un phasme bâton ?
Alors, non, je ne le sais pas encore. Je ne l'ai pas assez, observé pour... vous répondra.
Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de lui ?
Alors, on va le laisser dans la haie et on va continuer à l'observer. Cet animal m'a vraiment passionné.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir parlé du bétatron. Nous avons apprécié le fait qu'un agriculteur s'intéresse à ce qu'il se passe dans la nature et puis nous parler d'un animal tel que le bétatron.
De rien, c'était avec plaisir.
On s'éloigne un peu pour prendre des nouvelles d'une réserve non pas sainte-africaine, mais africaine tout court.
Départ pour un safari à la réserve de Sijin.
Gaëtan Petit, voilà, j'ai été soigneur animalier pendant une dizaine d'années dans différents parcs avant de venir ici à la réserve africaine de Sijin il y a 2 ans. Je m'occupais principalement des grands herbivores, donc des rhinocéros, des girafes, des zèbres, cobs et gnous qu'on peut avoir autour de nous, mais aussi parfois des carnivores, des lions, des ours. Voilà, et maintenant je suis à présent donc au service pédagogique et conservation, qui sont 2 missions des parcs, en plus donc du bien-être animal, de reproduire ces espèces emblématiques qui sont les ambassadeurs donc de la faune sauvage. Il faut savoir qu'on œuvre également pour aider des ONG, des associations, sur le terrain, que ce soit en Afrique ou dans notre région ou dans d'autres pays. Et de plus, éduquer les petits et grands, de chez nous d'ailleurs, pour préserver donc ces environnements, cette faune et cette flore. La réserve africaine de Sijin, elle est à l'origine une conception unique par Henri de Montfray et le comte de la Panouse, qui est également celui qui a créé le zoo de Thoiry et le parc animalier de Pau. Ils ont eu cette idée dans les années 70 et en 74, les portes de la réserve ont ouvert. Au départ, ça faisait que 88 hectares et petit à petit, ça s'est agrandi au fur et à mesure du temps. 2 ans après l'ouverture, elle a été prise et tenue de main de maître par Monsieur Boisard jusqu'à son décès il y a 2 ans, a tenu et a agrandi, a amélioré et étoffé donc cette réserve africaine pour faire le lieu magique qu'on va pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. C'est un cadre magnifique, il est grand, il y a différents paysages que l'on va pouvoir rencontrer, différents niveaux de végétation, niveaux de terrain. On a des grands espaces pour nos animaux. Il faut savoir que tout départ, à l'ouverture, cette réserve ne ressemblait pas à ce qu'elle est devenue à présent. Les arbres ont poussé, il y a eu des plantations de fêtes, il n'y avait pas de parc dans cette zone de la France. C'est une zone où le climat est totalement... propice aux espèces africaines. Il faut savoir que la volonté dès le départ a été de présenter principalement des espèces venant du continent africain, comme les buffes qu'on a autour de nous, les blesbocs, les impalas ou encore les gnous. Le projet initial, c'était vraiment à la fois d'avoir un espace qui permette une belle balade, de conserver des espèces disparues, mais également tout l'écosystème présent, que ce soit la nature, les étangs, les espèces autochtones présentes, notamment au niveau des oiseaux. Il faut savoir qu'on est sur un axe de migration de nombreuses espèces ornithologiques. Donc c'est un point important également pour pouvoir préserver toute cette petite biodiversité. La particularité de ce parc, c'est qu'il se divise en deux parcours, un parcours en voiture et un parcours pédestre. Le parcours en voiture permet une immersion au sein des territoires des différentes espèces animales, plus ou moins grands selon les espèces, mais ce sont toujours de très grands espaces où les animaux peuvent se camoufler, se cacher. Vous voyez cette partie de pinède dans laquelle les femelles vont plutôt mettre bas et les petits vont être cachés. Ils peuvent également ne pas être soumis au regard des visiteurs, et comme pour les buffles, et aller dans les côtés un peu plus marécageux, se bauger dans la boue. Ils sont vraiment libres, peuvent traverser la route, donc ce sont des espaces dans lesquels nous pénétrons effectivement. Ça va être le cas dans les lions que nous allons traverser d'ici quelques minutes. Après, nous avons donc l'autre partie de la visite qui se situe donc sur le parcours pédestre, où cette fois les animaux sont dans des espaces confinés dans lesquels nous ne rentrons pas. Le but de ces deux parcours, c'est que cela permet également de prendre notre temps, d'avoir une balade à pied, de pouvoir prendre des photos un peu plus facilement. C'est deux axes différents, mais ça permet vraiment une balade, surtout pour voir depuis le chemin des crêtes notamment, tout un panorama au-dessus de l'étang de l'œil de Ka. Ainsi, on peut admirer les flamants roses, on peut admirer également ici des oiseaux en vol. Nous sommes actuellement sur un super projet qui est en construction dans le bas du parc, qui est une volière d'immersion cette fois. Ça va vraiment être une volière où il y aura une multitude d'espèces d'oiseaux, mais également des alligators, des petits primates. Et les visiteurs sont amenés donc à traverser cet espace qui va reproduire un écosystème dans son ensemble. Au départ, les animaux étaient sur le zoo de Thoiry et ils sont venus progressivement depuis le zoo de Thoiry. Ça a d'abord été des antilopes, des élans du Cap, des impalas, des zèbres, des gnous, quelques autruches, quelques oiseaux, des flamands, des pélicans. Peu de temps après sont arrivés les premiers lions, deux rhinocéros qui s'appelaient Néron et Cléopâtre. Notre première girafe est arrivée depuis Fréjus en voiture, s'appelait Lucky. On a ensuite eu un chimpanzé, un éléphant. C'est vrai qu'on avait des éléphants encore récemment donc, sur le parc de Sijan, et on en aura dans les années à venir. Le parc ne restera pas sans éléphants. Et petit à petit, les animaux sont venus progressivement, que les espaces se réalisaient, que le parc s'agrandissait. Puis un grand nombre d'animaux se sont reproduits donc, après, par la suite sur le site. Les animaux sont échangés de parc en parc. Il n'y a pas de valeur monétaire sur les animaux pour éviter le trafic. Ce sont des échanges qui sont régis par un coordinateur pour une espèce donnée. C'est dans le but d'éviter les risques de consanguinité entre les individus. Donc les parcs échangent des animaux. Donc la plupart des animaux que vous voyez ici sont nés en captivité, dont une grande partie des herbivores que vous avez autour de vous qui sont nés ici sur le site de la réserve africaine de Sijan. Avant, il y avait des achats, des animaux étaient prélevés à l'état sauvage et venaient remplir les zoos européens. Et progressivement, donc depuis 1973, depuis la Convention de Washington, on a commencé à se rendre compte que les espèces animales étaient une denrée qui pouvait disparaître et qu'il était grand temps de protéger et de sauvegarder. Et on avait assez d'individus dans les différents parcs du monde pour pouvoir échanger entre les parcs sans avoir à les prélever ces animaux rares donc dans la nature. Dans certains cas, il arrive même maintenant que certains parcs réintroduisent certains animaux à l'état sauvage. Donc il y a tout un travail en amont à effectuer pour pouvoir organiser cette réintroduction, notamment préparer les animaux à être réintroduits et à ne plus être dépendants de l'humain. C'est le cas ici à la réserve africaine de Sijan. Nous avons introduit dernièrement des ibis chauves en Andalousie qui sont partis donc en Espagne donc au mois d'octobre et qui ont été réintroduits au début de l'année là à l'état sauvage et qui vont maintenant être suivis et se reproduire à leur tour pour repeupler l'espèce. Moi, c'est le rhinocéros. Nous avons toujours des espèces emblématiques telles que les girafes. Nous avons également les rhinocéros, mais le lion reste vraiment le symbole de notre parc et porte énormément d'admiration auprès du public. D'autres espèces restent toutefois très admirées, telles que les chimpanzés, le petit suricate, nos alligators, et notre groupe de flamands roses qui est fort impressionnant, surtout en période d'été. Notre mâle emblématique Ndoumé nous a quittés l'été 2016 et laissant donc seul Chami, donc la femelle. Il faut savoir que les éléphants sont des animaux qui vivent en groupe et qui peuvent être très vite stressés. Et donc notre animal, dans un souci de bien-être, nous avons préféré l'envoyer donc en Allemagne, au zoo d'Erfurt, où elle a pu retrouver Choupa, donc sa sœur, et ainsi pouvoir s'épanouir à nouveau. Toutefois, on ne restera pas longtemps sans éléphants. On a un projet éléphantesque d'ailleurs. On aimerait offrir une partie imposante, donc de 10 hectares, pour accueillir un groupe bachelor d'éléphants. Que signifie bachelor ? C'est-à-dire un groupe exclusivement constitué de mâles éléphants. Savoir que c'est un mâle avec différentes femelles, et il y a un surplus de mâles dans les parcs. Il faut que certains parcs assument donc cette responsabilité de garder uniquement des individus de sexe masculin. D'ici quelques années, la réserve africaine de Sigean verra de nouveau des éléphants qui feront le bonheur donc des visiteurs. On a entre 300 000 et 350 000 visiteurs qui viennent par an. La plus grande période de visite est bien sûr l'été, mais avril, mai, juin, c'est sûr, nous avons beaucoup de scolaires pour les voyages de fin d'année. Nous sommes ouverts tous les jours de l'année. Il faut savoir que nous travaillons tous les jours pour s'occuper donc de nos petits protégés. Mais le parc reste accessible également toute l'année avec des horaires restreintes, hein, la nuit tombant plus vite et la météo étant un peu moins clémente. Savoir que certaines espèces vont être plus ou moins visibles selon s'il fait très chaud ou s'il fait très froid. On fait vraiment tout, principalement pour le bien-être de nos animaux, pour éviter tout problème de santé que pourrait causer le froid.
Quand j'étais petite, j'allais à l'ESSAC, où tous les mardis se tient une foire aux animaux. Je laisse la parole à Damien.
Merci Marion. Nous avons travaillé sur ce marché, car nous habitons à proximité et nous voulions en savoir plus sur son histoire. Monsieur Puel, organisateur du marché.
Des foires tous les mois. Après, c'est passé en 1977, c'est passé une foire tous les 15 jours. Et depuis 81, je crois, c'est chaque semaine. Depuis 83, le marché est couvert. Donc après le fonctionnement, là, elle est divisée en deux parties, une partie boucherie et une partie élevage. La partie boucherie, l'ouverture de transaction, c'est à 8h. La partie élevage, c'est à 8h45. Le chargement sont autorisés à partir de 9h15 pour toutes les catégories. Après le fonctionnement, bon, on essaye d'être strict sur la discipline parce que bon, on s'est aperçu autour de nous que bon, les marchés qui laissaient un peu tout faire, notamment pas respecter les horaires et tout, bon, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être strict là-dessus. Après, bon, on met comme à l'école, on met des avertissements à ceux qui ne veulent pas respecter le règlement. Et au bout de deux avertissements, c'est une amende de 200 euros. Et après, bon, si ça recommence dans l'année, bon, mais voir commission de discipline, voir exclusion après. Bon.
À son tour, M. Boyer témoigne de son expérience du marché.
Je suis Jean-Paul Boyer, marchand de bestiaux, côté de Gabriac, dans l'Aveyron. Toutes les semaines, depuis l'âge de 16 ans. J'en achète surtout, j'en vends très peu, de temps en temps quelques-unes, mais on est surtout à l'achat, on achète des broutards et des vaches et des taureaux.
Et vous en faites quoi après ?
Soit pour l'abattage en France, soit à l'exportation sur les pays européens, pays tiers.
Merci à messieurs Puel et Boyer d'avoir répondu à nos questions et pour le temps qu'ils nous ont consacré.
Notre dernier sujet traite bien entendu d'animaux, mais sur un plan beaucoup plus douloureux.
En effet, sans y être confronté directement, la maltraitance animale reste un sujet très présent sur les réseaux sociaux.
Nous avons voulu parler de ce sujet pour sensibiliser le public sur le sort des animaux maltraités.
Pauline Drineau, responsable de la SPA de Millau.
Alors la première chose, c'est qu'on les emmène chez le vétérinaire pour faire un état des lieux de l'animal, savoir ce qu'il a eu comme blessure, comment le soigner. Ça, c'est le côté physiologique. Et après, au côté psychologique, parce que les animaux qui ont souffert de maltraitance, parfois, ils ont peur des hommes, peur de la main. Donc ça, c'est un long travail de réadaptation en leur montrant que l'humain n'est pas dangereux au refuge. Le plus qu'on récupère, c'est des animaux qui sont maigres, qui n'ont pas été nourris correctement, ou dont le propriétaire n'a pas fait les soins quand il y avait une maladie. Par exemple, la leishmaniose, une tumeur, ou le propriétaire n'a pas emmené chez le vétérinaire, a laissé couler, et le chien ou le chat arrive dans un état assez catastrophique. Normalement, quand ils partent dans les nouvelles familles, les soins dus à la maltraitance sont terminés. Ils ont repris du poids, ils ont été soignés. Et après, on fait des visites post-adoption pour vérifier que l'animal est bien dans sa nouvelle famille.
Au bout de combien de temps enlevez-vous les animaux à un particulier ?
Alors c'est pas forcément une notion de temps en fait, c'est on nous fait un signalement. Et ensuite, on va vérifier sur place si le signalement est véridique ou pas. Et ensuite, soit l'animal n'est pas vraiment maltraité, ou c'est une personne qui ne connaissait pas forcément les chiens. Donc on donne des conseils et on vient vérifier un mois après si les conseils ont été appliqués. Soit l'animal est vraiment maltraité, et dans ce cas-là, on intervient plutôt à l'amiable, c'est-à-dire qu'on force un peu le propriétaire à nous céder son chien à l'amiable. Et s'il ne veut pas, on est obligé d'aller porter plainte, et c'est des procédures qui sont toujours un peu plus longues.
Combien y a-t-il d'animaux retrouvés maltraités en moyenne par an ?
En moyenne, il y en a à peu près une dizaine.
Combien y a-t-il d'animaux retrouvés morts par la maltraitance ?
Ah, ça, c'est beaucoup plus rare. Moi, en 5 ans de refuge, ça m'est arrivé 2 fois seulement.
Combien sont renvoyés dans de nouvelles familles ?
Tous.
Animal se termine. On vous remercie pour votre attention. Hashtag Madame Cadou.
Ciao, ciao.
On n'entend plus.
Si, on entend. Allez, bah, vas-y, commence.
Responsable de la... Arrête. Oui. C'est quoi ça?
Ça va pas du tout.
Bonjour. Oh pardon. Ah non, c'est à moi.
Bonjour, merci à tous les deux d'être. Je peux recommencer. Moi, j'ai regardé la Casa des Papels en études.
Voilà. Gaffe, c'est ta prof qui t'entend.
La Casa des Papels.
J'ai rien à faire.
Ok.
Quand je dis fréquence animale se termine, je mets une intention particulière ou pas? Fréquence animale se termine. On vous remercie pour votre attention.
Ciao, ciao.
Non, c'est hashtag.